Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Gwendoline Langlois.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Microcité, votre rendez-vous d'actualité sur Radio Campus Grenoble 90.8. Il est 16h30 et nous serons ensemble jusqu'à 17h. Cette semaine, toute l'équipe a revêtu ses plus beaux pulls de Noël et vous livre toutes les bonnes astuces pour profiter des fêtes sans avoir à finir dans le rouge. Ce sera dans le dossier de Léa Bouvet. Enfin, Clémentine Proto vous apprendra comment devenir un pro du lancer de hache. Voilà ce qui vous attend sur Radio Campus 90.8. Microcité, c'est parti! Mais avant ça, le journal avec Anouk Caron. Bonjour Anouk.
Bonjour. Les boules disco au placard depuis hier soir. Pour réduire les risques de contamination, le gouvernement a annoncé la fermeture des discothèques. Comment réagissent les clients? On les entendra dans quelques minutes. Puis on ira faire un tour au cinéma. À l'occasion de l'avant-première du film Placé, Clémentine Proto a interviewé Nessim Chikaoui, le réalisateur du film. La saison de l'hiver arrive à grands pas et amène avec elle les raclettes. Pour réussir ce plat d'hiver, la meilleure chose à faire, c'est de bien choisir son fromage. Gwendoline Langlois est allée rencontrer un fromager qui lui a livré de précieux conseils. Plus possible de danser en boîte de nuit depuis hier soir. Jean Castex l'a annoncé ce lundi. Les discothèques ferment pour 4 semaines au moins pour tenter de freiner la 5e vague de Covid-19. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. À l'occasion de la dernière soirée en boîte de 2021, Gwendoline Langlois a tendu son micro au clubbeur grenoblois.
On est vacciné et on nous prive de boîte alors qu'on est vacciné.
Mais juste danser, c'est un moyen de sortir quelque chose de notre corps, sortir quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de montrer de base. Mais vu qu'on est bourré, on va danser et on va danser, on va s'exprimer. Sauf qu'on peut pas faire ça vu que les boîtes sont fermées. Et ça, c'est un putain de bémol parce que ça nous empêche de rencontrer des gens, ça nous empêche de sociabiliser, ça nous empêche de rencontrer du monde, ça nous empêche de vivre en fait. Parce que vu qu'on peut pas aller en boîte, on peut pas vivre.
Bah, je suis déçu parce que j'aurais voulu pouvoir continuer de faire des soirées après les partiels, pouvoir avoir des potes en soirée, bouger la musique à fond. Mais bon, du coup. Tant pis quoi.
On remarque que le Covid remonte quand même pas mal et on tient tous à nos familles, donc faut quand même faire attention. Un jour on va y arriver, hein. On va s'en sortir, j'espère. Parce que bon, j'ai bientôt 20 ans, je compte me la mettre en boîte quand même et jamais m'arrêter.
Hey, salut.
Olaf Scholz est à Paris aujourd'hui. Le nouveau chancelier allemand a tenu sa promesse de campagne et fait donc sa première visite officielle en France. L'occasion pour Emmanuel Macron et lui de symboliser ce nouveau couple franco-allemand et d'aborder des sujets comme l'Europe, le Covid ou encore les tensions aux frontières de la Pologne. Le chancelier se rendra ensuite à Bruxelles pour s'entretenir avec des dirigeants de l'Union européenne. Entre Paris et Londres, le bras de fer post-Brexit sur la pêche se poursuit. L'Union européenne avait demandé aux Britanniques de régler les licences de pêche d'ici ce vendredi soir, mais l'ultimatum a été rejeté par le gouvernement de Boris Johnson. Paris promet d'aller au contentieux si nécessaire. L'idée d'une primaire à gauche séduit Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'économie se réjouit de la proposition de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Selon lui, les projets des 5 candidats doivent être mis sur la table pour construire un avenir commun. Sur France Info, il a estimé ce mercredi que l'extrême droite était aux portes du pouvoir et a appelé à abandonner le « moi-je » pour le « nous ». Les intempéries et la neige continuent de s'abattre dans le sud-ouest. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance rouge au cru. 9 autres départements sont en alerte orange, pluie, inondation, neige et avalanche. Plusieurs routes et maisons ont été inondées et 1100 foyers étaient privés d'électricité dans le Pays Basque ce matin. Un tragique événement a eu lieu hier soir en Gironde à la Teste de Buch où un gérant de bar est décédé. Il tentait de séparer 2 clients qui se battaient et a été mortellement touché. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait été poignardé à l'artère fémorale. Les 2 clients ont été interpellés. Garde à vue prolongée pour Yannick Agnel. L'ancien nageur olympique de 29 ans est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Selon le parquet de Mulhouse, les faits remonteraient à 2016. La plainte a été déposée par l'une des filles de l'ex-entraîneur du nageur. Pierre Ménès, lui, est sorti hier soir de garde à vue et sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en juin. Le journaliste est soupçonné d'agression sexuelle par une hôtesse du Parc des Princes qui l'accuse de lui avoir touché la poitrine dans les loges du stade. Le chroniqueur nie formellement les faits. Placé, c'est le nom du premier film de Nessim Chikaoui. Le long métrage dépeint le quotidien de jeunes placés en foyer et de leurs éducateurs. À Échirol, Clémentine Proutot a rencontré le réalisateur et un de ses acteurs principaux lors d'une avant-première.
On suit Elias, un jeune homme qui devient éducateur dans une maison pour enfants placée par l'aide sociale à l'enfance. Il entre dans ce milieu complètement par hasard. Je voulais déjà savoir pourquoi avoir choisi de faire un film à ce sujet.
J'ai fait ce film parce que j'ai été éducateur pendant 10 ans. Ça me paraissait normal dans un premier film de raconter une période de ma vie très importante. Je voulais montrer un petit peu l'univers de ces maisons d'enfants qui est méconnu. On connaît tous le terme foyer, mais personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. En tout cas, je voulais raconter ma vision à moi de ce que j'ai pu vivre, mettre en lumière un peu le métier d'éducateur et les jeunes placés.
Personnellement, quand je suis sortie du film, j'avais l'impression un peu de sortir d'un film feel good. Est-ce que c'est un parti pris ?
Oui, c'était clairement voulu, le feel good. C'est pour ça qu'il y a les potes RATP qui sont là, qui sont une vraie bulle d'oxygène pour le personnage, mais aussi pour les spectateurs. Ça fait du bien de sortir un peu de l'univers du foyer aussi. Ça change, encore une fois. Moi, tout ce que j'ai vu sur ce sujet, c'était très gris, terne. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais faire un film qui ressemble à ce que je pourrais aller voir au cinéma, moi.
Il y avait quelque chose qui m'avait marqué pendant le film. Elias, le personnage principal, rentre dans la maison. Laura, je crois, lui dit « tu viens ici, mais tu vas voir, c'est une maison de cassos ». C'est vraiment l'image qu'ils ont d'eux-mêmes.
Pour certains, oui, pas pour tous. D'ailleurs, dans la scène, il y en a qui disent « moi, je ne suis pas un cassos ». Quand j'étais éducateur, les petits s'appelaient les foyards. Et ça leur faisait leur petit groupe à eux. Nous, on est les foyards, voilà. C'était un truc qui m'avait marqué. Et puis, il y en a, bien sûr, qui sont plus pessimistes, qui disent « je commence ma vie, je suis déjà en maison d'enfants, en foyer, je suis déjà catégorisé comme un cassos, quoi ». C'est important que je le montre, ça aussi.
Victor Lefebvre, vous jouez le rôle de Samir. D'après vous, qu'est-ce que ce film montre que les autres ne montrent pas ?
J'avais une image des foyers, puisque moi j'ai quand même des amis à moi qui ont été placés en foyer, etc. J'avais quand même une image très noire du foyer. Alors que finalement, c'est... des fois ça fait du bien d'être placé. Des fois c'est un mal pour un bien, puisque ça te fait grandir plus vite. Il y a des bons côtés, des mauvais, mais je pense que si ça doit arriver, il faut prendre plus les bons côtés que les mauvais.
Merci beaucoup.
Et le film est à retrouver dans les salles de cinéma dès le 12 janvier prochain. Le rugbyman Antoine Dupont a été désigné meilleur joueur de l'année par le World Rugby. Le demi-mêlé toulousain est le 3e français à obtenir cette distinction après Fabien Galthié et Thierry Dussautoir. Pour se réconforter du froid et de l'hiver, rien de tel qu'une bonne raclette. Mais comment bien la choisir et reconnaître le fromage artisanal de l'industriel ? Gwendoline Langlois est allée poser la question à un fromager à Grenoble.
Dans la boutique de Brian Prados, on trouve des raclettes à tous les goûts.
Avec des ours, un classique, fumé, le braisin, la truffe et la noix aussi, c'est vraiment pas mal.
Chez lui, tout est 100% artisanal.
Dans une raclette nature, il y a des petites bulles d'air comme ça là. Plus il y a ça, et plus elle sera de bonne qualité. Pour pas avoir de doute sur la fabrication, j'aime bien travailler avec des appellations d'origine protégée. C'est une façon de fabriquer, c'est toujours la même, c'est validé, c'est certifié.
Pour qu'il m'explique comment bien choisir ma raclette, je lui ai ramené un fromage acheté en supermarché pour jouer aux 5 différences.
Déjà, ils mentent sur les portions. 250 grammes, c'est ce qu'on préconise pour une personne. Là, ils disent 2 personnes, 250 grammes. Je vous conseille pas de vous faire une raclette à 2 et d'avoir que 250 grammes parce qu'il va vous en manquer devant la machine. Tu vois la différence que je t'ai parlé tout à l'heure ? Tu vois pas une bulle. On voit tout de suite que c'est pas naturel. La croûte, elle est trop... Je sais pas, elle est claire, elle est pas... Non, ça va pas. Ça, c'est du lait pasteurisé, donc ça va être un peu plus doux. C'est caoutchouteux tout de suite.
Bref, il n'est pas convaincu par mon produit, surtout au vu du prix. La portion que j'ai achetée m'a coûté 3,59€, les 250 grammes, soit seulement 18 centimes de plus que celle que vend Brian, qui est, elle, à 3,79€, les 250 grammes. À la fin pour le rappel des titres. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 16h38, Microcité ça continue dans un instant avec le dossier de Léa Bouvet qui nous expliquera comment limiter ses dépenses de Noël. Mais avant ça, petite pause musicale.
I want.
C'était All I Want for Christmas, remixé par le comité des reprises. Vous êtes sur Radio Campus, il est 16h42. Acheter les cadeaux, le repas, le sapin, fêter Noël, c'est un sacré budget. Léa Bouvet, cette année, entre perte d'emploi liée à la crise sanitaire et l'augmentation des prix, les Français devraient serrer la ceinture un peu plus encore.
Oui, selon une étude réalisée en octobre dernier par Opinionway pour Proximis, une plateforme de commerce en ligne, chaque Français devrait dépenser en moyenne 280 euros pour Noël, soit 20% de moins qu'avant la crise sanitaire, où le budget moyen des fêtes avoisinait les 350 euros. Pour les Grenoblois à qui nous avons posé la question, les fêtes s'annoncent plus économes que d'habitude.
Comment on s'envisage Noël, là, cette année ?
Très modestement.
Le déni, on continue d'acheter, même si on n'a pas l'argent, et puis voilà.
Très dur. Surtout quand on a beaucoup de petits-enfants. Après, il n'y a pas que les cadeaux, il y a la nourriture, il y a les bouteilles, il y a tout, quoi.
La hausse des prix est certaine, et surtout la hausse des énergies. Et ça va devenir très problématique, même pour moi qui fais partie des privilégiés.
J'ai pas un grand pouvoir d'achat. Il faut être organisé, il faut anticiper, il faut chercher le prix le moins cher. On trouve pas toujours notre bonheur, parce qu'on est toujours obligé de compter.
Plus de la moitié des Français estiment en effet que leurs dépenses de Noël seront fortement impactées par la hausse du prix du carburant, de l'énergie et des produits alimentaires. Beaucoup expliquent aussi ressentir du stress en raison du budget à dépenser. C'est pourquoi cette semaine, nous sommes partis à la recherche d'idées, de bons plans et de conseils pour un Noël tout aussi magique mais plus économique. Pour commencer, il est une dépense quasi incompressible, les cadeaux. Comment faire plaisir à ses amis, à sa famille sans se ruiner ? Un Français sur trois envisage d'utiliser au moins une partie de la prime inflation pour ses cadeaux et 51% d'entre eux expliquent vouloir réduire le nombre de cadeaux. Alors Agathe Legrand, quel est exactement l'état du pouvoir d'achat concernant les cadeaux ?
Comme vous l'avez dit, les Français mettront moins de cadeaux sous le sapin, la faute à l'augmentation du coût de la vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, si la pandémie a en effet joué un rôle à l'échelle individuelle avec certaines personnes qui ont perdu leur emploi par exemple, ce n'est pas le seul facteur à faire baisser le pouvoir d'achat en cette fin d'année, comme l'explique Michel Namy, président de l'UFC Que Choisir.
Le pouvoir d'achat des Français, il est très entamé avec toutes les hausses qu'il y a eu sur l'énergie, que ce soit l'augmentation du gaz, de l'électricité, des carburants, du fioul. Disons qu'on a eu droit à cette fin d'année à toutes les augmentations.
Par rapport à 2019, le pouvoir d'achat des Français a donc baissé de 10 à 15%, une baisse qui devrait se faire ressentir chez les commerçants avec également un changement des pratiques d'achat qui rendent compliquée la comparaison avec les années précédentes.
On n'a pas d'estimation, mais on se rend compte quand on se promène à titre personnel dans les magasins qu'il y a beaucoup moins d'achats dans les magasins. Alors peut-être qu'il y a un report sur les achats en ligne, mais ce report-là, on pourra le quantifier que mi-janvier, voire fin janvier, quand on aura les retours au niveau du gouvernement sur les achats de Noël.
Bon, on l'a compris, du coup, Agathe Legrand, cette année, le budget cadeau va être considérablement réduit. Comment est-ce qu'on fait alors pour faire plaisir à ses amis sans se ruiner ?
Pour ça, Léa, il existe quelques astuces. Déjà, vous pouvez faire comme Isabelle, elle a 5 petits-enfants, et pour les gâter, malgré tout, elle préfère la seconde main.
Il y a des choses qui sont tout neuves et qui n'ont pas été utilisées. Et là, voilà, on y gagne en budget. Et puis on trouve des jeux en bois, donc c'est bien parce que ça servira pour d'autres. C'est ça aussi quoi, qu'il faut voir.
Le marché de la seconde main se développe de plus en plus. Selon un sondage Kantar pour eBay, les Français seraient 53% à penser offrir un cadeau d'occasion à Noël. Et on atteint même les 64% pour les 16-24 ans. Pour acheter d'occasion, il existe de nombreux sites internet comme eBay, Amazon ou Le Bon Coin. Mais pour ceux qui aiment tout de même se rendre en magasin, il existe des enseignes spécialisées dans les objets d'occasion. La plus connue reste Emmaüs, mais il existe aussi à Grenoble d'autres magasins de ce type, comme La Remise qui collecte, trie et revalorise jouets, vêtements ou mobilier. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise à l'idée d'offrir des cadeaux d'occasion, il y a d'autres options. Par exemple, Sarah, jeune maman, a trouvé cette solution pour ne pas trop dépenser cette année.
Je pense que je vais faire des cadeaux un petit peu fait maison. J'ai vu un petit peu sur Pinterest, avec des petites cuillères en bois plantées dans du chocolat, bien emballées, jolies, avec un joli petit mot. Voilà, ça va être des petites attentions.
Donc pour faire des cadeaux faits maison, pas besoin d'être un as du bricolage. La plupart des tutoriels trouvés sur Internet facilitent la tâche à l'utilisateur. Bougies parfumées, bracelets tricotés ou vide-poche en cuir, vous trouverez forcément une idée à votre goût. Et si vous avez plutôt l'âme d'un artiste, vous pouvez offrir un petit texte touchant écrit par vos soins ou un dessin. Dans tous les cas, en plus de permettre des économies, le cadeau fait main a une forte valeur sentimentale. La personne à qui vous allez l'offrir sera forcément touchée par cette attention. Bon, par contre, si vous avez plus de 12 ans, évitez le collier de nouilles, hein. Dernière idée que je vous propose, offrir de votre temps. On a tous besoin d'un service ou tout simplement de passer un peu de temps avec nos proches, que ce soit un bon pour la garde d'enfants pour parents dépassés ou un bon pour une balade en forêt en amoureux. Vous pouvez toujours trouver un moyen d'offrir de votre temps. Et puis, vous pouvez aussi ne pas offrir de cadeaux avec comme excuse que vous n'aimez pas Noël.
Oula, alors moi je suis pas très Noël, alors vous êtes mal tombés avec moi.
D'accord. Ouais. Vous offrez pas du tout de cadeaux ?
Non.
Eh bien voilà qui a le mérite de résoudre le problème en tout cas. Mais on va parler maintenant d'un autre budget, lui aussi au cœur des fêtes, celui qu'on le consacre au repas. On parle beaucoup de l'inflation de certains produits phares comme le poisson ou les fruits de mer. Et toujours dans l'étude d'Opinionway, on apprend que 52% des Français veulent faire des repas plus économiques. C'est vous, Anouk Caron, qui vous êtes occupée cette semaine de nous trouver quelques solutions.
Oui, et l'aliment le plus emblématique de Noël, c'est la dinde, mais son prix peut en refroidir plus d'un. 18 euros le kilo en moyenne. Heureusement, Patrick Gérald de la boucherie Malherbe à Grenoble a quelques conseils.
Si on veut rester sur un petit budget, il y a des choses comme ça, comme les paupiettes, par exemple, paupiettes de poulet. On peut farcir avec de la farce fine qu'on fait nous-mêmes. Ça fera festif, c'est pas une paupiette classique qu'on mange d'habitude et ça restera dans un prix abordable. Après, il y a tout ce qui est volaille, petite volaille, canette, poulet, les gros canards comme ça. Pareil, ça reste des prix abordables puisque là, oui, ils sont là, en plus, bon, ils sont en promotion là chez nous. Mais ça tourne aux alentours de 14,90. Ça peut faire pour 8, ouais, on va dire entre 6 et 8 personnes. Pareil, c'est pas un produit qu'on mange tous les jours, le canard. Et après, il suffit de faire la farce fine avec des marrons autour, des choses comme ça. Bah, ça fait tout de suite, en fait.
Et côté crustacés, les HS de la poissonnerie La Chenal m'a donné une information capitale.
Vous voyez le homard, par exemple, la saison, c'est au mois de juin. Mais tous les gens veulent en manger à Noël. Sauf que bah, au mois de juin, on le vend à 60 euros le kilo et à Noël c'est 100 euros le kilo.
Et là je vous vois venir, vous vous dites super, maintenant que je sais ça, je vais acheter le homard avant et le congeler. Oui mais en fait c'est pas forcément une bonne idée.
Bah, le problème c'est que plus vous congelez un produit sur une longue période, moins il sera bon parce que la chair va brûler au contact de la glace. Et donc du coup, il sera franchement pas bon. Après, vous avez des homards qui sont moins coûteuses, comme du homard canadien. Moins coûteux, mais moins de goût.
Bon, heureusement, il n'existe pas uniquement le homard pour se faire plaisir en période de fête.
Après, en coquillage, bon, bah, les moules de bouchot à Noël, ça sera toujours la saison. La moule d'Espagne pour faire des moules farcies, c'est pas bien cher non plus. Donc ça, à la rigueur, pour les petites bourses, ça peut être pas mal.
Sachez en tout cas qu'un panier moyen à la poissonnerie coûte entre 100 et 150 euros pour 4 personnes.
Oui, et puis au risque de bousculer certaines habitudes, hein, aucune obligation, on le rappelle, d'avoir à manger de la viande ou du poisson à Noël. Il y a plein d'alternatives qui existent, des recettes originales. Et puis la magie de Noël, c'est aussi toute une ambiance, c'est la décoration, c'est le sapin. Et là aussi, il y a plusieurs moyens de faire des économies. Gwendoline Langlois, vous avez cherché pour nous quelques bonnes idées.
Oui, et bah déjà, si vous voulez réduire la facture sur le sapin, mieux vaut ne pas l'acheter. Car avec un peu de temps et d'huile de coude, il est possible de fabriquer son propre arbre de Noël. Et tout ça pour moins de 10 euros. Ça vous tente ? Voici un petit tuto. Marie n'est pas vraiment fan de bricolage, mais l'an dernier, elle s'est lancée un pari un peu fou avec son copain. Plutôt que d'acheter un énième sapin, elle a décidé de construire en un week-end un arbre de Noël tout en bois de récup.
Il y a un socle rond au milieu de ce cylindre plat en bois. Il y a une tige en métal et donc on a percé chaque branche au milieu et ensuite progressivement on a inséré chaque branche sur la tige filetée, la plus grande en bas, la plus petite en haut pour que ça ait une forme de pyramide. Donc chaque branche en fait est mobile autour de l'axe et en fait c'est toi qui disposes un peu pour que ça donne quelque chose de joli, un petit peu homogène.
Étape par étape, ça donne ça.
pour commencer, il nous fallait un socle pour que le sapin tienne debout. On est allé vers le palais des sports. Il y avait une vente de sapins de Noël et nous, au lieu d'acheter un sapin, on a juste demandé le socle pour la modique somme de 5 euros. Ensuite, dans un magasin de bricolage, on a trouvé une tige métallique filetée entre 1 mètre, 1 mètre 20. Faut pas que ce soit trop grand non plus, sinon ça tient pas debout. Et quelques boulons dans les 5 euros. Bah, les branches, vous pouvez les trouver en fait dans n'importe quelle forêt. Vous vous rendrez compte qu'en vous baladant, il y a partout du bois qui traîne. Faut pas qu'il soit trop humide, trop moisi. Et en fait, en général, c'est des branches dont l'écorce, elle est déjà partie toute seule.
Comptez donc une bonne journée de travail, dont 2 heures de balade en forêt avec les bras bien chargés, puis 3 heures de bricolage. Ensuite, reste plus qu'à décorer et à profiter.
Quand on a invité des potes, on avait souvent des commentaires positifs. Pouvoir se dire qu'on l'a fait soi-même, ça me faisait plaisir. C'est accessible à tout le monde. Faire attention avec la perceuse, c'est tout.
En tout, ce magnifique sapin de Noël aura coûté à Marie seulement une dizaine d'euros entre l'achat du socle, de la tige et des boulons. Vous pouvez donc faire de même, le tout étant de trouver quelqu'un qui accepte de vous prêter sa visseuse perceuse le temps d'un week-end.
Et c'était Marie, étudiante en médecine, au micro de Gwendoline Langlois.
Bon après, si les travaux manuels, ça vous tente vraiment pas, vous avez deux autres possibilités un peu plus classiques, opter pour un sapin naturel ou artificiel. Bon, de prime abord, l'artificiel, ça peut sembler plus abordable, pratique et écologique. Déjà, c'est plus facile à installer, c'est plus léger, plus maniable. Et puis, il suffit de le ranger dans un coin à la fin des fêtes pour le ressortir l'année suivante. Après, côté prix, à taille égale, un sapin artificiel coûte autant, voire parfois même un peu plus cher qu'un sapin naturel. Bon, une différence de prix qui est quand même vite amortie, puisqu'un artificiel se garde plusieurs années. Mais ce type de sapin présente quand même deux inconvénients. D'un, il n'a ni l'odeur ni le rendu d'un vrai arbre, et de deux, il a tendance à se déplumer au bout de quelques années. Et puis enfin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas super écolo. Selon un cabinet d'études canadien, il faudrait réutiliser un sapin artificiel 20 ans pour que son bilan carbone soit meilleur que celui d'un sapin naturel, alors qu'on le conserve en moyenne 6 ans. Et puis de toute façon, selon l'étude d'Opinionway, 45% des Français déclarent ne pas acheter du tout de sapin de Noël. Mais si vous, vous faites partie des 55 autres % d'irréductibles qui tiennent vraiment à avoir un arbre de Noël, Marie-Christine Coinvelet, productrice de sapins, a quelques conseils pour vous.
Vous avez plusieurs variétés de sapins, vous avez du Norman, de l'épicéa. Le Norman va être plus résistant, va durer plus longtemps, alors que les épicéa, tout ça, sont un petit peu moins résistants, mais par contre, ils vont sentir très bon, alors que le sapin n'a pas d'odeur. Un petit épicéa, vous allez en commencer entre 10-15 euros pour une hauteur de 80 cm à peu près. Le premier prix pour un Norman, vous allez la trouver à 25 euros. Ça fait quand même presque 10 euros d'écart. Par contre, l'épicéa, il est moins cher, c'est pas le fait qu'il va perdre ses aiguilles. La différence de prix, c'est la pousse que va prendre le sapin. Ça nous demande plus de temps à entretenir et à pouvoir vendre un Norman que de vous vendre un épicéa. Un épicéa, dans 5 ans, on le met sur le marché. Un Norman, dans 5 ans, vous ne le mettez pas sur le marché. C'est pas possible.
Bon, et puis une fois Noël passé, il vous suffira d'apporter votre sapin dans l'un des points de collecte de la métropole pour qu'il soit broyé et recyclé en compost.
Et puis, quoi qu'il en soit, que ce soit un sapin naturel, fait de récup ou un arbre en plastique, il faut ensuite le décorer. Alors, bricoler, pourquoi pas, mais il faut avoir l'idée, le temps. Et puis, parfois, on craint un peu de se retrouver avec une déco type classe de maternelle. En vérité, il existe plein d'astuces, pas chères et plutôt esthétiques. On pense notamment aux flocons en origami, aux guirlandes d'étoiles en papier. Pour les toiles en haut du sapin, rien de plus simple. On peut fixer ensemble des bâtonnets de glace, des petits morceaux de bois peint. Et puis, pour la décoration de table, privilégier une déco naturelle, des branchages, des pommes de pin, de jolies feuilles d'automne, quelques bougies et le tout réjoui.
Et puis l'important à Noël, c'est surtout de partager un moment ensemble dans le respect des consignes sanitaires. Bon, pour le moment, pas de limitation du nombre de convives, le tout étant de se faire tester avant de se retrouver.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 16h56. Clémentine Proutot était un peu tendue cette semaine, hein. Donc l'équipe de Microcité lui a conseillé de se détendre. Alors Clémentine, où est-ce que vous nous emmenez ? Dans un salon de massage, un spa ?
Eh bien non, je vais aller lancer des haches au H de Grenoble. Plus exactement, je vais rencontrer Sylvain Contremoulin. C'est un ancien prof de parapente et il a ouvert cette salle en avril 2019.
Déjà là, par exemple, à l'entrée, on peut voir qu'il y a plein de haches différentes.
On peut les utiliser, celles-là ou...
Ces haches-là, c'est plus des haches de décoration. Après, en type de hache, on a les tomahawks. Ensuite, on a des hachettes. C'est des haches plus courtes avec des lames un peu plus lourdes. Et après, on a des haches un peu fun, comme la chasseuse de zombies, la zombie hunter. On a la hache du templier, qui est la hache tueuse de vampires, si on veut.
Donc, on peut venir et demander la hache pour tuer les vampires.
Donc là, on a normalement le bruit typique d'une hache qui plante bien. Voilà. Quand une hache ne plante pas bien, eh ben, ça fait plutôt un bruit plus fort et ça s'entend tout de suite.
Vous aviez dit que vous appreniez une technique.
Alors la technique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on tient la hache en général tout en bas sur le manche. On a un tapis noir qui est la zone de lancer. Il y a 4 mètres jusqu'à la cible. On commence à lancer de cette distance. Si votre hache, elle plante sur la pointe de la lame, à ce moment-là, ce sera le bon réglage pour cette personne-là. Et une fois que ça a plusieurs fois bien planté, la personne, elle a juste à mémoriser l'endroit d'où elle a lancé et d'essayer de faire toujours le même geste.
Bon, après ces explications, je me suis lancée. Alors, vous m'avez dit le pied...
Jambe droite devant.
Jambe droite devant et voilà, je la pointe à droite. Ici. Ouh là là, je me fais moi-même peur, là.
Voilà. Faites le mouvement.
Ouh là. C'est raté.
Il faut la faire tourner un peu plus.
Dans le groupe d'à côté, Gaëtan et Sarah y arrivent beaucoup plus vite. C'est la première fois que vous en faites ?
Moi, ouais. Moi, c'est pas mal, ça change des fléchettes, du bowling et je pensais pas réussir aussi bien. Mais ouais, il y a une bonne ambiance, c'est original et ouais, c'est pas mal comme concept, ouais, en tout cas.
Alors, si on prend le coup rapidement, ça va. Au début, si on prend un peu de temps, comme moi, on prend pas trop de plaisir, on s'énerve. Et après, dès qu'on y arrive, au taquet des 4 points, c'est parti. Ah, mais là, ça fait 4 d'affilée, là. Madame.
J'ai laissé Gaëtan et Sarah terminer leur soirée. Maintenant, vous savez où aller pour vous défouler.
Et si vous sentez l'âme d'un lanceur de hache, c'est 45€ de l'heure par cible. Donc, mieux vaut s'essayer à plusieurs à cette activité insolite.
Microcité. En direct jusqu'à 17h.
Et maintenant, un bref rappel des titres à Anouk Caron.
Le sud-ouest, toujours en proie à de violentes intempéries. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en alerte rouge au cru. Plusieurs cours d'eau ont débordé, notamment dans le Béarn et au Pays Basque, où plusieurs villages ont les pieds dans l'eau et sont privés d'électricité. Le nageur olympique Yannick Agnel reste en garde à vue. Il est entendu depuis jeudi dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur de 15 ans. Les faits présumés remontent à 2016. La 92e émission de Miss France, c'est demain soir sur TF1. La cérémonie se déroulera au Zénith de Caen, ville d'origine de l'actuelle Miss France, Amandine Petit. Le nom de la gagnante sera dévoilé en fin de soirée.
C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On souhaite bon rétablissement à Louis Oscovan et un grand merci à Sarah Paulet et Alèche pour la technique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou réécouter les émissions précédentes sur le site de Radio Campus. À la semaine prochaine.